Ja, klar ist.
Eh bien, ça commence. Salut Pierre.
Salut mon Jérôme.
Tu passes pour la troisième fois chez moi, il me semble.
Mais classe, trop bien.
Mais t'es le seul déjà de passer deux fois, donc trois fois t'es encore plus le seul. Mais bon, ça ne pouvait être que toi.
Ah, gentil, gentil.
En tout cas, super décor.
T'as vu ça? Il y a des gens là, hein. Il y a des gens que
et
tu connais.
Il
hein.
faut noter que Pierre a fait tous ses dessins à la main. Voilà, ce n'est pas des choses imprimées, ce n'est pas des choses dérobées, volées, usurpées. Non, t'as tout fait. Donc
oui.
On remarque un très bon coup de crayon.
Ah, c'est gentil.
Avec beaucoup de One Piece, un peu de Dr. Stone, je vois.
Ouais, le truc, c'est que j'ai fait des zones. Bon, c'est là, si je devais vous montrer tous les murs, il y a deux murs, en fait. Hein. Mais il y a des zones. Là, en fait, commence un peu la zone Dragon Ball et autre chose. Mais vous ne le voyez pas. Moi, je suis derrière One Piece, quoi. Donc, voilà, il y a... Ah bah ça, c'est autre chose. Mais il y a du Zoro, là. Là, tu vois, j'ai Zoro, ici.
Ok.
Voilà. Et ici, si... Voilà, bref.
D'ailleurs, j'ai commencé chez Chainsaw Man, c'est bon.
Très bien, très bien. Très, très bien.
Mais on n'est pas là pour parler de ça.
Non. Bien qu'on pourrait parler de pop culture comme certains Zelda, mais on n'en parlera pas.
On a un podcast pour ça, tous les deux. Donc, on a un endroit qui est dédié justement à la pop culture.
Ouais.
Donc oui, on parlera de Zelda, je pense, dans le podcast directement. Donc Pierre, je t'ai invité pour parler d'un sujet vraiment central. Comme tu le sais, moi de mon côté, je parle de productivité essentiellement. Et notamment, je raccroche tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est physiologie ou encore sciences cognitives à la productivité pour en tirer des leviers concrets. Et mon but est de montrer tout simplement que la productivité ne se limite pas aux outils et aux méthodes que l'on peut enseigner, mais en fait est un domaine beaucoup plus large que ça. Et que sans un cerveau vraiment, on va dire optimisé entre guillemets, et sans un corps capable d'être productif, on a beau avoir tous les outils du monde, on ne sera pas productif. Et il y a un élément qui est vraiment minimisé par rapport à la productivité aujourd'hui, qui est l'importance du contexte, selon moi. Comment le contexte extérieur influence ta productivité? Typiquement, comment la météo peut l'influencer? Comment tes proches peuvent l'influencer? Comment ta nutrition peut l'influencer aussi? Et je trouve qu'aujourd'hui, de façon générale, on minimise constamment le rôle central du contexte. En termes de santé, en termes de tout, typiquement, quand tu vois un docteur, il te prescrit directement des médicaments, mais il ne te parle jamais de ton sommeil, jamais de ta nutrition, jamais de tes proches, jamais de ton moral. Alors qu'au final, ces éléments de contexte sont essentiels pour comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et c'est un sujet qui te tient à cœur toi aussi. Et je voulais qu'on en parle, tout simplement.
Ouais, c'est comme tu l'as dit, il y a un terme que tu as utilisé, c'est central. On va prendre du temps pour définir les choses, parce que si on essaie de parler de l'environnement, c'est le mot sous-jacent à tout ce que tu viens de dire, là, contexte ou environnement, ce qui nous entoure. Déjà, est-ce qu'on peut essayer de le définir? Comment toi tu me définirais l'environnement, le contexte encore une fois, l'environnement?
C'est très compliqué, c'est vrai que c'est un élément qui est très vague et très vaste aussi.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que les informations font partie de l'environnement? Sachant que c'est un élément qui est éloigné et qui n'est pas direct. Pour moi, oui. En fait, pour moi, c'est toutes les informations qui sont afférentes.
Ok, d'accord. Donc c'est une information finalement à laquelle tu es connecté.
Oui.
Ouais. C'est, tu vois, rien que le fait de parler d'environnement et de contexte, rien que le fait de nommer, crée une dualité. C'est toi et l'environnement. C'est-à-dire,
c'est
si je commence à parler d'environnement, c'est que je me détache. Tu vois, je sors la bulle et je commence à me dire, est-ce que la bulle elle est importante, sans me prendre en considération. Et ça, c'est par les mots, on commence à scinder et à séparer. Le contexte est pareil. Alors, le contexte. Alors, comme tu as dit, l'alimentation. Et donc, tu vas étudier l'alimentation tout seul, tant que tel, l'impact, etc. La météo, alors la lune, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça fait d'impact sur le moral, le cerveau, les neurotransmetteurs, ok, super. Et à chaque fois, on sépare, et on prend l'individu comme s'il était en dehors de la structure. Si je te donne une mission, c'est, toi qui aimes l'intelligence artificielle et tout ce qui se développe actuellement, tu vas me construire un robot pilote. Hein, ça, c'est ce que je vous avais demandé, notamment lors du stage numéro 2 au CNH. C'est, on vous donne une mission, vous devez construire un robot qui conduit une voiture. C'est le robot voilà, qui sert de chauffeur. Ok, t'as les rênes du truc, t'as toute technologie. Comment tu fais pour construire un robot qui va piloter la voiture, qui va te mener un peu du travail à la maison, etc. Normalement, tu vas te dire, je vais lui mettre dans son disque dur tout le code de conduite de la route. Je vais lui mettre qu'est-ce que c'est un volant, qu'est-ce que c'est une voiture, etc. Qu'est-ce que c'est un trottoir? Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir lui expliquer qu'est-ce que c'est le trottoir, il va falloir lui dire qu'est-ce que c'est. concrètement un trottoir? C'est du béton, c'est du sable, ok. Qu'est-ce que c'est le béton? Bah, c'est du sable avec de l'eau, ok. Qu'est-ce que c'est le sable? Bah, c'est des minéraux, etc. Qu'est-ce que c'est des minéraux? Bah, des minéraux, c'est des atomes. Et en fait, c'est infini. Mm-hmm. Quand tu veux définir quelque chose, dans le terme définir, ça veut dire délimiter les limites. Hein, bien voir comme un terrain de foot, ok, ça s'arrête ici. Où est-ce que tu fais arrêter l'environnement? Où est-ce que tu te fais arrêter? Toi, c'est quoi ta limite? C'est ta peau? Mais non, on sait très bien que c'est pas une limite non plus, c'est une zone d'échange avec l'environnement. Donc en fait, il faut partir du principe qu'on est intriqué dans notre environnement. Très concrètement, quoi. C'est-à-dire, c'est une gigantesque toile d'araignée, et on peut pas prendre un point en pensant que, justement, c'est un point noir sur une feuille blanche. Non, c'est... vous êtes un morceau de la toile, quoi. Donc c'est comme le syndrome du t-shirt, comme dirait Ido Portal, c'est tu tires devant, ça bouge derrière. Tu peux pas... penser qu'il y a des épiphénomènes dans la nature, et on est complètement pris dans la nature. Donc, on a essayé de scinder les choses pour bien que ce soit raccord avec notre cerveau d'occidental, dire, bon, ok, j'étudie une partie du système, et ça va me permettre de comprendre le système. Mais rien que ce présupposé-là est faux. Il nous emmène sur un chemin qui est malheureusement sans issue, quoi. C'est un cul-de-sac, ce truc. Il faut revoir notre copie, et ceux qui l'ont déjà tout de suite compris, c'est dans l'histoire des sciences cognitives, t'as le connexionnisme, le connectivisme, des gens qui se sont opposés par rapport à quoi sert le cerveau et l'esprit. Hein, grosso modo, pour la faire courte. Et il y a une étude qui est très fameuse, qui est étude de Held et Hein, un truc comme ça. Bon, ils ont tous les deux un H en majuscule en nom de famille. Où je vous l'avais raconté ça, ils avaient pris deux groupes de chatons et ils avaient élevé dans le noir. Et quand vous élevez des animaux bébés dans le noir, ils deviennent aveugles. Malheureusement, c'est assez tortionnaire, mais c'est comme ça. Et une seule fois dans la journée, ils allumaient la lumière. Et quand ils allument la lumière, le premier groupe de chatons, il est bien assis pépère dans une carriole. Voilà. Il bouge pas. Okay. Et l'autre groupe de chatons, quand la lumière est allumée, ils tirent le chariot, qui comporte donc le premier groupe de chatons. Donc il y a un groupe de chatons qui est passif, un groupe de chatons qui est actif. Ils ont tous les deux la même expérience visuelle. Hein, c'est la cage, vous voyez la cage, quoi. Mais quand ils sont remis en liberté, les deux groupes, le premier groupe qui était passif est resté aveugle, il se prend les murs, il tombe, etc. Le deuxième groupe est totalement fonctionnel, ils ont un système visuel qui s'est construit. C'est complètement dingue. Non, ils ont eu la même expérience visuelle et le système visuel ne s'est pas construit de la même manière. En fait, on a compris que la perception n'était pas une action passive. Perception, c'est justement quelque chose qui est actif et qui nourrit l'action. Donc, on se rend compte que, en fait, l'environnement dans lequel on est, c'est pas parce qu'on ne fait que l'observer qu'on est passif. C'est pas parce qu'on est... on le voit, qu'on peut s'extraire de ça et que ça n'a pas d'influence sur nous. On fait partie complètement de manière intriquée et on change même l'environnement par le fait même d'y être. Donc en fait, ça te remet en question tout ce que tu as pu faire en termes de thérapie, toujours, et d'études. C'est-à-dire, quand on nous dit on a pris une cohorte de 20 personnes, on les a étudiées et on a vu leur niveau de cortisol baisser, monter, peu importe ce que tu veux. On s'intéresse jamais à qui sont ces personnes et qu'est-ce que ça produit d'aller dans un laboratoire qui est une salle vierge, blanche et entourée de gens qui sont en blouse blanche. Et rien que ça, en fait, ça, chez certaines personnes, c'est un stress. En tout cas, ça les change complètement de leur environnement habituel. Et donc tout ça, en fait, on fait comme si le sujet de l'étude n'était pas pris en compte. On fait comme si le fait que ce soit un individu qui est intriqué dans le monde, on l'oublie pendant un temps, et on ne regarde que les effets qui sont produits sur son corps. Et après, on essaye de rattraper les wagons en se disant « Et donc que... » Tu sais, on fait des conclusions rétroactives, « Et donc que ça veut dire que... » Mais non, les gars, on n'a pas mis en place les bonnes circonstances, là. On n'a pas été juste dans notre analyse. Voilà, donc l'environnement, prendre le temps de se dire que c'est pas un truc externe à nous. C'est un truc qui dans lequel on est complètement imbibé, comme quand vous êtes dans votre bain, vous faites complètement corps avec l'eau, quoi. C'est la même chose, quoi.
Mais donc on est d'accord qu'aucune étude scientifique ne tient la route.
C'est ça, c'est que t'as envie de tout remettre, tout
mettre en branle. Sur l'humain, sur le vivant, j'entends. Ouais, d'espace, qui sont pas réellement de vivant, même dans l'espace, parce que l'observateur, du coup, fait partie du contexte.
Mais c'est ça. C'est que je reprends souvent cette anecdote. Quand Andrew Huberman, il a interrogé Rhonda Patrick, donc, qui est vraiment la reine d'avoir démocratisé l'hormèse avec le sauna, avec le froid, etc. Et il parlait des addictions, il parlait des voies dopaminergiques, etc. Et Huberman parle du fait que les rats sont plus addicts au sucre que la cocaïne, etc. Et Rhonda Patrick fait une remarque très rapide, qui n'est pas relevée par Huberman, mais qui dit « Vous savez qu'en milieu naturel, le rat ne devient pas accro à la coque. C'est-à-dire, on met de la cocaïne, on le fait goûter au rat, mais s'il est dans son milieu naturel, dans son terrier et en forêt, il va goûter à la cocaïne, mais après, il ne va pas devenir accro, il va repartir vivre sa vie normalement. » Et Huberman y rigole, « Ah ah, oui, c'est vrai, c'est rigolo. » Et il passe à autre chose. Mais non, non. Moi, je veux qu'on reste là-dessus. En fait, l'environnement détermine la résultante. Si l'environnement est sain, l'individu va se comporter complètement différemment et sans doute aura de bien meilleures armes au niveau cognitif, raison, par rapport aux émotions, par rapport à son stress, par rapport à tout, et la prise de décision, que si tu le mets dans un environnement vicié à la base, par exemple, qui n'est pas du tout notre environnement premier, mais l'environnement de l'entreprise, comme on l'entend en 2023, c'est-à-dire des bureaux, une sédentarité, des murs très fermés, hein, des pièces petites, voire un open space, mais avec, donc toujours avec la proximité, promiscuité du voisin, et t'as pas trop envie de voir ce qu'on voit, etc. Donc un premier état de stress, des deadlines, bosser pour une entreprise qui n'est pas la tienne, donc tu te sens pas trop impliqué, t'as pas trop envie de le faire, et tout ça, tu cumules. Comment vous voulez qu'on analyse la santé des personnes sans prendre en compte l'environnement dans ce cas-là, quoi. Ça détermine tout. C'est comme si on était engagé sur des rails, une voie de chemin de fer qui n'est pas la bonne, quoi, pour l'épanouissement et donc la productivité. Hein, pour citer Idriss, une personne qui est épanouie est forcément productive. Hein, toi qui t'intéresses à la productivité, donc il faut rentrer par la case « qu'est-ce qui permet, dans l'environnement, l'épanouissement de l'être humain ?» Qu'est-ce qui le permet véritablement ? Ben, on se rend compte que c'est l'environnement naturel, grosso modo.
Mais comment tu fais pour concilier les deux, même les trois, entre le cadre professionnel, l'environnement naturel et aussi les besoins de chaque individu qui compose justement un bureau ?
C'est compliqué, c'est clair. Déjà, c'est complètement antinomique à ce qu'on a connu après-guerre, Trente Glorieuses, etc., et tout la psychologie qu'on a eue du Corbusier, c'est-à-dire un lieu, une fonction. Avec les cités dortoirs qu'il avait créées à Marseille et à Paris ou ailleurs, c'est-à-dire un lieu, une fonction, tu dors dans cet endroit-là, tu travailles dans cet endroit-là, et c'est comme Charlie Chaplin avec travailler à la chaîne, et chaque chose est très découpée comme ça, travail robotique, comme si, encore une fois, on était des machines, comme si on était, comme Descartes l'avait dit, un canard mécanique. Tu te rappelles de ce que nous avait montré Pierre.
Le canard de Vaucanson, oui.
Voilà. Donc, un assemblage de rouages, si c'est cette psychologie-là du circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui est émerveilleux à l'intérieur de nous, et qu'on est juste un mécanisme, faisons du travail à la chaîne, faisons ça. On en revient, ça commence à changer. Comment concilier les deux maintenant ? Ça peut aller très simple. Évidemment, il y a une désurbanisation, un retour à la nature. Tu vois très bien comme les gens qui ont maintenant un travail comme nous, très en ligne, hein, qui se délocalisent à la campagne. Moi, je vis à la campagne, ça ne m'empêche pas d'avoir une activité professionnelle épanouissante. C'est-à-dire, c'est pas du travail pour moi. Le travail, vraiment, encore une fois, la terminologie, c'est le labeur. C'est-à-dire, c'est dur, quoi. Et quand on me dit « tout travail mérite salaire », pour moi, c'est la phrase la plus fausse au monde, quoi. C'est-à-dire, ça voudrait dire toute souffrance mérite récompense. Ben non, je n'ai jamais récompensé une souffrance. Quelle idée. Et pourtant, on répète ce genre de truc, tu sais. C'est toute chose bien faite, si vous voulez. Toute chose bien faite mérite récompense, ok, ça je l'entends, oui, ouais, d'accord. Mais tout travail, non. Donc, le joueur du grenier avait amorcé ça, il est parti vivre en campagne, il fait cette embrouille. Voilà, t'en as plein, comme ça, t'as la Red Zone, il me semble que ça a été créé, un truc comme ça, de youtubeurs qui sont rassemblés entre eux. La Redbox, pardon. C'est des exemples à suivre, on voit que le système change. Dans les bureaux, maintenant, si on prend le vieux système, où tu rassembles dans un seul endroit des gens pour travailler Bon, ok, ça, on passe par là. Ça a plus trop de pertinence vis-à-vis des nouvelles technologies. On pourrait faire ça moins souvent, c'est-à-dire pas 5 jours sur 7, ni 6 jours sur 7, mais peut-être 2 jours sur 7, tu vois. Se rassembler dans un seul lieu pour créer de la cohésion de groupe, mais après, je pense qu'on peut trouver des autonomies grâce aux nouvelles technologies. Mais je vais prendre l'exemple de mes amis de The Iceland à Montpellier, qui est une boîte de com magnifique, qui cartonne. Ce sont des amis qui ont créé ça depuis maintenant un bon moment. Ils étaient à la fac avec mon frère, donc tu vois, ça remonte au moins à 20 ans. Et ils cartonnent dans la communication engagée. C'est-à-dire que quand un grand groupe veut communiquer sur le fait qu'ils font les choses bien pour l'environnement ou pour l'être humain, c'est eux qui se chargent de cette com-là. Ils sont très engagés, donc c'est super ce qu'ils font. Ils ont créé un lieu qui s'appelle The Iceland, qui est devenu un lieu de partage, share working place, je sais pas quoi, comment dire, complètement imbriqué dans une magnifique nature. C'est-à-dire, ils ont appelé ça donc l'île. Quand tu rentres dedans, t'as vraiment l'impression d'être à Bali. Hein, l'impression que t'as des arbres partout, des fleurs partout, t'as un jardin qui est magnifique en permaculture, les bureaux sont grandes vitres, tu vois, c'est une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur beaucoup de lumière. Ah, ça fait plaisir, tu vois, t'es là déjà, c'est autre chose, tu vois la nature constamment dans la journée, et on sait que dans les prisons, dans le cadre du travail, une simple affiche, hein, d'un paysage naturel, t'as les taux de cortisol qui baissent. Immédiatement.
Mais comme quoi, la présence de plantes.
La présence de plantes.
La productivité augmente, le bonheur augmente, tout augmente de A à Z.
Mais bien sûr, on se sent beaucoup mieux.
La nature dans un endroit qui est dénaturé. Littéralement dénaturé, où la nature est absente.
C'est ça. Donc, tu vois, concilier ce genre de choses, finalement, ça peut être relativement simple et facile à mettre en place. Après, tout le monde n'a pas un jardin, etc., j'entends bien, mais mettre de la nature partout, faire que la personne se sent bien, c'est quelque chose que bon, Google, Apple ont très bien compris quand ils ont créé leur manière de travailler complètement, où les codes étaient cassés, quoi, hein, dans l'ancien monde. Ça, c'est une première chose. L'environnement, comme on l'entend en termes de nature qui nous entoure, quelle est la couleur que je vois, quels sont les gens que je côtoie, mais après, il y a aussi le mouvement. On peut très bien, encore une fois, mettre en place des choses qui sont. Qui vont permettre à la personne de se déplacer. Rien que le fait qu'on soit tous mobiles maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les ordinateurs portables, avec les tablettes, avec les téléphones, il y a des choses qui sont très facilement faisables et qui nous permettent d'être mobiles et pas tankés sur la chaise, vraiment, les pieds dans le sol au quotidien. Ça, on sait très bien, pour la vision, l'optical flow, hein, la vision périphérique du défilement, qui calme aussi le système nerveux, qui désamorce l'amygdale pour la marche vers l'avant. Donc les amygdales, pour ceux qui... je pense que sur ta chaîne, ils sont au fait de toutes les neurosciences, mais c'est vraiment les structures dans le cerveau qui sont là pour la détection du danger. Et que si une situation nous semble un peu dangereuse, elles vont élever les niveaux de réponse par rapport à un stresseur. Ils vont augmenter le niveau de stress dans le corps, etc. Forcés par un peu de la gamification, quoi, par le fait, par la circonstance, au mouvement, forcer les employés à bouger, à se rencontrer dans d'autres lieux, à naviguer. On peut trouver plein de choses de mise en place par rapport à ça. Mais alors, quand vous êtes entrepreneur, là, vous avez. Nous, on s'éclate à essayer de, comme tu le fais très bien, de trouver tous les moyens de tweaker les situations pour être encore plus épanoui, donc plus productif. Et améliorer nos conditions de travail. Il y a plein de pistes, une fois que tu as compris ça.
Et je pense qu'il faut tendre à bloquer également ces éléments-là dans son agenda. Typiquement, moi, j'ai bloqué la marche. Le fait que je parte marcher 3-4 fois par jour, c'est écrit noir sur blanc, là, je vais marcher. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus de travail à faire que de temps pour le faire. Et souvent, quand tu es pris dans ton boulot, tu mets de côté ta marche. Tu le fais un jour, tu le fais deux jours, tu le fais trois jours, une semaine, un mois. Et au final, comme ça, tu dégringoles, mais de façon progressive, tu te rends pas compte. Mais ça, comme au niveau, je bloque tout. Je bloque mes temps de marche, je bloque mes temps avec mes enfants, et également le temps de sport entre midi et deux. Et pour moi, aucun rendez-vous ne peut être pris à ce moment-là. C'est impossible.
J'aime beaucoup.
C'est mon temps qui est personnel. Le travail, en fait, se greffe autour de mon temps qui est personnel. Parce que si je suis pas épanoui, moi, au niveau personnel, je ne le serai pas au niveau professionnel. Même si la barrière entre les deux est floue. Très clairement, encore plus pour l'entrepreneur comme toi et moi. Mais il faut, je pense, bloquer ça. Il faut réellement ancrer, ok, là, je vais marcher pendant 10 minutes. Et surtout se dire, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, qu'il faut mieux marcher trois fois 10 minutes qu'une fois une heure. Parce que le fardeau, en fait, c'est pas tant le manque de marche, c'en est un certes, mais c'est la position assise. Et plus tu vas couper cette position assise de façon fréquente dans ta journée, plus tu vas limiter ses effets délétères.
C'est clair. On a vraiment tous ceux qui ont les premiers avocats de marcher, la marche post-prandiale, marcher après manger, etc., nous disent bien, hein, les études sortent, que c'est mieux de faire des petits tronçons, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, plutôt que d'un seul bloc. Évidemment, il vaut mieux un seul bloc que rien du tout, c'est clair. Si vous n'avez qu'un seul créneau pour marcher dans la journée, faites-le. Le truc, c'est que c'est addictif. C'est que plus on marche et on se balade, plus on se rend compte du bien-être dans lequel on est, et plus on a envie de le faire. C'est-à-dire que maintenant, moi, bosser plus de 60 minutes, une heure, sur l'écran, au bout d'un moment, je trépigne. C'est-à-dire, je regarde dehors sans arrêt, comme ça, et après j'y vais. Après, laisse tomber, il ne peut rien de compte. Et j'adore ta façon d'avoir présenté la chose, du c'est l'heure, plus rien de compte, maintenant je vais faire ça. Mais peu importe ce que je suis en train de faire, et c'est ce que nous disait Tim Ferriss dans tous ses bouquins, la semaine de 4 heures, etc., c'est vous avez décidé quelque chose, et sur votre agenda c'est marqué, voilà, aller respirer, faire du sport, marcher, etc., vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire, et vous le faites. Ça, c'est vraiment la discipline qui va vous ouvrir en fait la voie à tout le reste. Et encore une fois, le but recherché, c'est pas la productivité, c'est l'épanouissement. Et quand on est épanoui, je peux vous dire qu'on a bah, des sommes de travail qui sont colossales. Mais il ne faut pas que ce soit notre porte d'entrée. Il ne faut pas se dire, je vais d'abord commencer à abattre une somme de travail colossale pour être un jour bien financièrement, économiquement, ce que vous voulez, et enfin être épanoui, et enfin m'intéresser à l'épanouissement. Non, là on prend vraiment la copie à l'envers. Il faut d'abord se dire, qu'est-ce que je dois mettre en place, quels sont mes besoins fondamentaux pour être épanoui, pour être bien. Et ça passe par le contact avec la nature, la marche, le lien social, se rendre compte de cette intrication qu'on a avec l'environnement dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport aux chatons qui... Leur système nerveux se crée par rapport à l'action qu'ils ont dans le monde. Un objet, avant qu'il soit catégorisé comme une bouteille, un truc pour boire, etc. Là, je tiens une bouteille pour ceux qui ont que l'audio. Le cerveau le catégorise d'abord comme... Comment je peux le saisir? Si je peux le saisir à une main, à deux mains, avant que ce soit une bouteille, c'est d'abord un objet que je peux saisir à une main. Ouais. Le cerveau, il se demande toujours, par rapport aux objets qui nous entourent, comment il les catégorise, il les met dans des blocs, par rapport à comment il va interagir avec. Pour vous dire à quel point on n'est pas un sujet face à un environnement, on n'est pas non plus l'environnement lui-même, on est l'interaction. On est le résultat de l'interaction avec l'environnement. Et ça, c'est essentiel, quoi, parce que sinon, c'est toujours un truc duel. C'est toujours, encore une fois, une vérité extérieure que moi, j'essaie de comprendre de loin, grâce à des sens, grâce à des perceptions, etc. Il y en a qui y arrivent mieux que moi j'y arrive un peu moins bien. En fait, c'est toujours dans une forme de comparaison par rapport à un truc extérieur, etc. Non, c'est une intrication. Donc, c'est une interaction. Ce qui est dans le bouddhisme et dans toutes les traditions orientales, c'est pour eux, c'est l'éveil. Quand on se rend compte de ça, c'est un éveil. Et ils disent l'éveil est compassion. Hein, parce que c'est vrai que à partir du moment où tu te dis je suis juste une intrication et un lien avec l'environnement, mon cerveau s'est bâti comme ça, le gars que je vois en face de moi, en fait, c'est donc un peu moi, quoi, c'est une partie de moi. Donc tu réfléchis à deux fois avant de l'insulter, quoi, si c'est toi. Donc voilà, on en revient à cette intrication-là par rapport à l'environnement.
C'est super intéressant parce que c'est une construction qui est réellement évolutive. Moi, je vois mon fils qui a 18 mois, il prend ma kettlebell par la main. Il la prend, il essaye hein, parce qu'elle fait 3 fois son poids. Mais il essaye naturellement, sa main se tend vers la hanse de la kettlebell. Pas vers le côté boule, on va dire. Mm-hmm. Comme pour les poignets, effectivement, tu les saisis naturellement, comme pour les couverts, comme pour les hanses de tasse, c'est pareil. Donc oui, effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire par là. Après, pour une personne, effectivement, qui est en milieu plus urbain, comment réimpulser cette notion d'environnement naturel? T'es à Paris, intramuros, dans les bouchons, à la Défense.
Ouais, c'est la merde.
On a parlé, il pleut, il y a pas de soleil. On a parlé des plantes dans le bureau, mais c'est pas suffisant. Déjà, t'as pas de contact avec l'air. Mm-hmm. Et en plus, quand t'as contact avec, elle est polluée.
On a une machine absolument incroyable, hein, qui est ce cerveau et cette capacité à penser. Et alors, en sciences cognitives, le hard problem, le problème difficile, qui a du mal à être résolu, justement, et c'est pour ça qu'il est difficile, c'est comment la conscience naît des connexions neuronales. Comment un truc physique donne un truc qui est justement pas physique, quoi. Il n'est pas palpable. Hein, la conscience, l'esprit, c'est pas un objet. C'est quoi ce bordel ? Vraiment, c'est quoi ça ? Donc ça fait des siècles, hein, qu'on s'interroge sur ça, et le bouddhisme il s'interroge depuis 25 siècles sur ça, hein, dans la pratique de la méditation, entre autres. On en vient à arriver à définir les caractéristiques de l'esprit. Déjà, c'est pas mal, dire de quoi il est capable, quoi, en gros. Et ce qu'il est capable de faire, déjà, on est tous d'accord, c'est de penser à lui-même. C'est-à-dire, mon esprit, il est capable de réfléchir à mon esprit. Je peux déjà me dire que je suis pensant, je suis conscient, etc. Et ça, c'est déjà très fort. Donc, une des caractéristiques, c'est, de manière inconditionnelle, il est éclairant. Il éclaire les choses. Vous pensez à autre chose, vous pensez à quelque chose. Mentalement, vous fermez les yeux, vous pensez à un objet ou un moment. Et bien, ça éclaire la chose. Ça enlève les zones d'ombre. Okay, ça, c'est sa capacité, l'esprit. Ok, bon. Rien que le fait de tout ce qu'on a défriché là ensemble en quelques minutes, par rapport à l'importance de comment je m'inscris dans le monde, quelle est ma corporéité dans le monde, et mon intrication, peut aider même un Parisien qui est sous la pluie, qui est dans le bureau, qui est coupé de tout ça, à, sur sa chaise, prendre conscience de tout ça et prendre conscience des informations qui viennent de son corps, prendre conscience de la capacité, vraiment la cognition, quoi, la capacité à réfléchir et même la méta-analyse, analyser sa propre analyse et voir ses habitudes de pensée, voir toutes ses distractions, voir tous ses réflexes, hein, sortir son portable, regarder, scroller internet pour rien. C'est le fait de manger très vite et stressé. En fait, pour moi, ces extrêmes-là, puisque c'est un extrême, hein, vivre dans un bureau sous des néons H24, 6 jours sur 7, ne pas avoir de contact avec la nature, je pense que c'est le pire des extrêmes, en fait. Hein. Mmh. Et bien pourtant, c'est dans les extrêmes qu'on a les meilleures leçons. C'est justement là, quand ça tourbillonne et qu'on bouillonne parce qu'on sent bien que quelque chose ne va pas, il y a un truc qui cloche, c'est pas notre place, c'est là où on peut voir le maximum de symptômes. Ben ouais. Donc autant les analyser, autant voir... Bon, ben ouais, ça va pas, ça c'est pas bon, ça il faut que je change. Et à partir de maintenant que j'ai fait l'état des lieux, maintenant que mon esprit a éclairé tout ça, c'est ça qu'il est capable de faire, il éclaire, je progresser par petits pas. Baby step, petit pas par petit pas, je peux pas, ou peut-être je peux, claquer la porte de mon bureau et m'en aller, et dire je démissionne. Il y en a qui peuvent peut-être, mais la plupart des gens ne peuvent pas. Donc ça va être, je vais aménager tout mon bureau. Je vais demander un jour par semaine de télétravail. Je vais maintenant, ma pause déjeuner, je vais demander à mes potes, à mes amis, à partir du printemps, c'est qu'on aille manger dans le parc. Puisqu'on a vu qu'un simple passage dans les parcs en ville réduisait aussi les taux de stress, d'hormones du stress, etc. Une simple vue d'un paysage pendant plusieurs minutes. Alors, je n'aurai plus les chiffres en tête, mais vous regarderez les études. Et ce qui est frappant aussi, c'est dans certaines études, c'est 40 secondes de pause tous les quarts d'heure ou quoi, 40 secondes de pause à regarder un paysage naturel. Donc vous mettez un chrono, un timer si vous voulez, toutes les 15 minutes ou 20 minutes, et pendant 15 minutes, 20 minutes, soit vous avez par la fenêtre un paysage, vous regardez le parc, soit vous mettez sur votre écran d'ordinateur un documentaire de nature, et vous mettez 40 secondes, bon ben on va faire une minute, ce sera plus simple, une minute d'une vidéo YouTube qui vous parle des lions en savane. Voilà. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens vont dire franchement, ça va pas changer la donne. Si, ça peut carrément changer la donne. Et surtout, ça enclenche un cercle vertueux où tu places une discipline. Et la discipline, le projet de base de la discipline, c'est que tu mérites les résultats. C'est-à-dire que tu peux pas mettre une discipline si tu penses pas mériter toi-même le fait d'aller mieux, le fait d'être moins stressé, le fait de perdre du poids, le fait d'être épanoui, etc. Tant que tu ne le penses pas pour toi-même et une forme d'auto-sabotage, c'est cuit. Tu ne pourras pas mettre en place la discipline. Donc, tout ce que tu as dit par rapport à tout à l'heure, de se dire à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, ça ne marchera que si la personne a un semblant d'amour propre. Hein, à se dire, bon, je le mérite. Donc, voilà, ça enclenche un cercle vertueux qui petit à petit va augmenter ce niveau de discipline. Petit à petit, on va de plus en plus, c'est-à-dire s'aimer soi-même, se considérer et voir les effets bénéfiques que toutes ces petites habitudes ont, et on va enclencher des grosses habitudes. Et ces grosses habitudes-là vont prendre encore plus de place dans notre quotidien, jusqu'à aller peut-être à, au bout d'un moment, se dire c'est quoi ce travail, en fait, je sens bien que c'est le fond même du travail ne m'épanouit pas du tout, et je vais lancer ma propre entreprise, je vais devenir entrepreneur, je vais faire comme tant de personnes le font de nos jours, comme nous on l'a fait, voilà. Peut-être, c'est pas une obligation, mais peut-être que ça peut ouvrir comme ça.
Ce que j'ai mis en place à mon niveau, pardon, c'est un tracking de mes habitudes. Donc en fait j'ai un tableau sur Airtable directement avec la date du jour, l'horaire de coucher, l'horaire de lever, la sieste que j'ai faite, sa durée, le temps passé avec ma compagne, avec Aurélie que tu connais très bien, avec mes enfants, la qualité de ce temps-là, la marche que j'ai faite, nombre de pas. En fait, je mesure pas mal d'indicateurs, même la lune, le cycle lunaire. Vu que j'ai un esprit qui est très justement analytique et un peu cartésien, je mets ça en fait en parallèle avec mon niveau de productivité, de motivation, de concentration, de bonheur et j'en passe, avec des échelles de niveau. Et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est faire un tableau croisé dynamique au final. Et je peux voir précisément quel facteur a une influence sur moi. Parce que tu as donné beaucoup de conseils vraiment pertinents et vraiment généreux, mais chaque personne reste unique. Ça, c'est clair et net. S'exposer potentiellement durant 5 minutes dehors au soleil à mon niveau peut me suffire, à ton niveau potentiellement non. Et pour quelqu'un d'autre, ça sera beaucoup trop. Effectivement, quand on n'a pas cet outil de mesure-là, du moins pour des personnes qui, comme moi, sont assez pragmatiques, on peut lancer beaucoup de bouteilles à la mer, mais pas savoir celle qui va nous revenir, pas savoir celle qui aura un impact, pas savoir celle qui aura survécu, pas savoir celle qui génère un réel effet. Et souvent, ce que je conseille aux personnes qui me suivent et que j'accompagne, c'est à partir de ce tableau-là, c'est de créer volontairement des erreurs. Je me suis couché, façon de parler, volontairement tard. J'ai volontairement pas mis le nez dehors aujourd'hui pour voir réellement l'incidence que ça va avoir. Pour réellement faire ce rapprochement de « Ok, ça c'est nécessaire parce que quand j'ai pas marché mes 3/4 d'heure par jour, de façon découpée, ma productivité, mon bonheur, ma créativité, ma relation aux autres, on est dégradé. » Mais vraiment, avoir cette notion, il ne faut pas le faire du 1er janvier au 31 décembre. Mais potentiellement, 2 fois par an, durant 30 jours, pour réellement se rééquilibrer, pour tester des choses également. Parce qu'en fait, on ne peut pas croire des choses. On peut être sceptique par rapport à la lune, par rapport à la nature, par rapport au fait de regarder un documentaire animalier, pardon, comme tu l'as dit précédemment. Mais si on ne teste pas, on ne saura pas si les résultats. Donc juste, il faut parfois poser le cerveau, ne pas réfléchir, suivre aveuglément un plan, voir ce qui fonctionne, le réajuster et continuer. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, par contre, on se rattache à un outil extérieur. Je suis d'accord.
Oui,
mais
c'est
les
ça.
Gens sont tellement déconnectés aujourd'hui de leur ressenti qu'il faut passer par cette transition-là, je pense, pour comprendre les effets des éléments qu'on met en place.
Ouais. Très clairement, et ça marchera très bien avec justement un esprit comme le tien qui est analytique et justement qui est à la discipline. Justement, parce qu'il y a un fond d'amour propre, il y a une démarche qui est très constructive de le faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu rajoutes une case dans ta ligne de tableau Excel, et c'est au jour le jour ton jugement sur le tableau.
Intéressant.
Le fait même de remplir la donnée, qu'est-ce que ça provoque sur toi ? Et à partir du moment où tu arrêtes de remplir la donnée, tu fais la chose de manière automatique, qu'est-ce que ça produit sur toi aussi ? Des jours où tu le fais pas. Et ça aussi l'évaluer. Parce que, encore une fois, là, si tu fais ça, tu t'exclus, toi, sujet pensant, de l'analyse. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu t'inclues dedans. Parce que sinon, c'est un outil qui n'a aucune interaction avec toi. Penser que l'outil n'a pas d'interaction avec toi, c'est comme penser que tu es en dehors de l'environnement. Cet outil, maintenant, fait partie de ton environnement et tu es intriqué avec lui. Et le fait d'avoir mis en place le tableau influence ça aussi, le résultat du tableau. Donc, c'est clair que moi, ça m'intéresserait aussi que tu notes ton relationnel aussi au tableau. C'est une boucle sans fin, hein. C'est un puits sans fond. C'est après, la relation de ma relation.
Il me tire vers le haut.
Voilà.
Il me force à faire ma posturologie tous les matins. Par exemple, des choses comme ça, toi. Et également, je note mes ressentis, mais sur un journal intime que je tiens depuis maintenant 800 jours de suite. C'est que j'ai une rigueur par rapport à ça qui est. En fait, aujourd'hui, ne pas faire mon journal est plus compliqué que de le faire. Parce que rompre une chaîne d'habitude de 800 jours, en fait, je vais me tirer une balle. Ni plus ni moins, j'ai pas envie de faire ça. Mais effectivement, t'as raison. Il faudrait que je puisse ajouter cette dimension de OK, qu'est-ce que me procure mon tableau aujourd'hui ?
C'est ça.
Et du coup, voir la corrélation que ça a aussi avec le reste.
Ah ouais, bah tu sais, Je m'inscris pas autant que toi dans l'analyse quantifiée, mais des carnets, des journaux intimes, J'en tiens depuis une dizaine d'années. Et c'est tous les jours. Donc ça fait 3000, pareil, ça fait 3000 jours, quoi. Sans doute 3000 jours de journaux intimes. Et je le fais, et parfois j'écris à propos du fait d'écrire. C'est ça, tu vois, où je veux me placer. C'est le fait d'écrire, qu'est-ce que ça m'apporte? Et ce carnet-là, qu'est-ce qui m'apporte? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quel est notre relationnel à la chose qu'on est en train d'entretenir, très concrètement. Et le fait même d'y penser influence, change la donne.
Pensez pour moi-même de Pierre Dufraisse. Bientôt aux éditions Exuvie.
Finesse. Vous en bouffez tellement de mes pensées que c'est même pas la peine d'écrire un bouquin. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, c'est n'en plus finir.
Des interviews.
Ah ouais, non, c'est clair, au bout d'un moment, je me dis, mais le monde d'en avoir marre. Parle comme ça, tu sais, le gars qui parle de sa vie. Bon.
Et cette rigueur, elle te vient d'où, toi? Moi, elle me vient de la musculation, très clairement. Parce que j'ai commencé à noter mes perfs sur les carnets de musculation. Ça vient de là.
Je comprends.
Moi, la partie écrite des choses, je veux dire, j'ai une rigueur qui vient d'avant, bien évidemment. Mais la partie écrite me vient de là.
Difficile à dire d'où ça vient. Je pense que ça a été le fait de me retrouver rapidement seul quand je suis parti au Japon, très tôt, je pense. Et que j'avais besoin de coucher sur papier ce que je ressentais. Effectivement, le sport, tu trouves cette même... besoin et nécessité, c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire, je le note parce que je sais que c'est important, parce que tous les coachs le disent, il faut que je le note. Mais aussi, je le note parce que ça me libère de quelque chose. Je le note parce que ça me fait du bien. Je matérialise mes pensées. Alors, le point d'orgue qui a été, ça a été vraiment exacerbé, c'était Covid, confinement. Okay. Pendant 3 mois à la maison, mais là je grattais du pain entre chaque temps de repos, tu vois. Si j'avais 2 minutes de temps de repos, mais je remplissais 2 pages, tu vois. Ça fusait, tu vois. Parce que, justement, comme tu disais tout à l'heure, parfois il faut changer la donne et arrêter l'utilisation d'une habitude pour voir son effet, quand elle nous manque, etc. Et ben là, j'ai pu voir à quel point enfin me donner le droit. En fait, c'est pas que je me suis donné le droit, c'est qu'on m'a imposé le fait de rester chez moi. En gros, j'avais le droit de me reposer. J'avais le droit de rien faire. J'avais le droit de ne pas avoir aucune attente qui venait de l'extérieur. Et donc, ça a été, alors si c'est ça, je vais m'entraîner tous les jours. Si c'est ça, je vais faire ce que j'aime tous les jours. Et tu vois, c'était un gros déclic. Et moi, pour moi, le confinement Covid, ça a été une épiphanie sur épiphanie, quoi. C'était, je me prenais des coups tous les jours sur... le sens de ma vie, sur ce que je veux faire, sur le goût de l'effort, sur le dépassement de soi, tout ça. Et donc j'écrivais énormément. Et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais de cesser une activité de temps en temps pour voir ce que ça a comme effet en retour, quand elle nous manque, comme le fait d'écrire par exemple, ou le fait de marcher. Je fonctionne de manière sans doute un peu plus extrême, c'est-à-dire que généralement, je vais arrêter plein de trucs en même temps. Ce truc qu'il ne faut pas faire parce que tu ne sais pas.
Tu ne sais pas du coup quel te manque ou ne te manque pas.
Ah, c'est ça. Mais quand même, j'ai pu percevoir, c'est quand je suis parti sur Porima, quand je suis parti sur le bateau au Japon, où là, j'étais sûr qu'on allait rester en quarantaine sur un petit bateau pendant 2 mois. Donc, ça veut dire que tu ne sors pas. C'est vraiment, tu as très, très peu d'espace. Tu es en promiscuité avec 9 autres personnes que tu ne connais pas. Pendant 2 mois, il y a un an.
Pas d'échappatoire, quoi.
Pas d'échappatoire du tout.
T'as pas le choix.
Tu gères pas l'alimentation, nous deux, on pense qu'à ça, c'est-à-dire, je veux mon truc bien carré, tu gères pas ton alimentation.
Pareil pour le sport, du coup, t'as pas de matériel.
Le sport, tu dois t'entraîner sur les marches des escaliers, bref, c'est le bordel, ou au sol. Donc, tu changes tout pour voir ce qui se passe. C'est vrai que. J'ai un peu cette psychologie-là, et donc le fait de marcher aussi, c'est très difficile de... Je faisais des tours sur le bateau, comme ça. Voilà, les gens, ils me regardaient, les autres coéquipiers, bon, au bout d'un moment, les marins se sont habitués, mais voilà. Et en fait, j'en ai tiré des leçons magnifiques. Magnifique. J'ai vu l'importance de tout. L'importance de la proximité de la famille, l'importance de la méditation, l'importance d'avoir de l'espace, de pouvoir marcher en forêt longtemps... j'ai regoûté à la frustration de tout ce qu'on aurait pu m'enlever, tu vois, de tout ce que j'aime, le fait qu'on m'enlève ce que j'aime. Et ça a fait du bien. comme quand on a goûté au fait à l'énorme frustration de nous priver de liberté pendant le confinement du Covid, là j'y ai regoûté aussi. Donc c'est je comprends tout à fait ce que tu veux dire par le fait de temps en temps voir ce que ça provoque en nous quand on n'a pas notre habitude qui nous fait si plaisir dans notre quotidien. Et là, c'est important de le noter. C'est important de dire, bon, voilà ce que ça provoque en moi, voilà pourquoi c'est important, et voici comment je vais le mettre maintenant en place dans ma vie, c'est-à-dire tous les jours à 13h, je vais marcher, tous les jours à telle heure, je fais des respirations, etc. etc.
Et tu notes avec un crayon ou du papier, toi ?
Ou est-ce que moi, je suis team 4 couleurs.
Ça, t'es team 4 couleurs, j'avais oublié. Ouais.
Donc, oui, carnet.
Les 4 couleurs. Moi, je suis team informatique. Hein, donc.
Et oui, bah, c'est comme ça, c'est bien.
Ok, ok. Non, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai que par contre, les gens, en fait, t'as connu tous les extrêmes, on va dire. Tu passes, effectivement, d'une vie en pleine nature à Porima. Mais pour les personnes qui, de base, vivent à Paris, en appartement, dans une tour, ils n'ont pas connu, en fait, l'autre monde. Donc comment leur faire prendre conscience qu'un autre monde existe? Toi, t'as donné des stratégies tout à l'heure, effectivement, mais comment, effectivement, comment dire, sentir l'absence de la nature qu'on ne l'a pas connue précédemment?
Pas facile. C'est pas facile parce que ouais, quand on tient justement à l'adrénaline, quand on tient à la caféine, quand on tient à la fixation d'objectifs qui nous sont parfois imposés, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, tout ça, quand tu as tes targets au mois, à l'année, etc., tu tiens par ce fil-là, qui est un peu sous le coup de la menace aussi, hein, de si je le fais pas, on va me le reprocher. Et tu vois, là, je vis donc dans la région qui est au sud de Toulouse, qui est rurale, hein, et je m'entraînais au CrossFit. Et le CrossFit, c'est bien parce que ça brasse vachement de gens différents. C'est vraiment, il y a le maire de la ville qui s'entraîne avec la personne qui gère la pizzeria, qui s'entraîne avec le pompier du coin, qui s'entraîne avec moi. On a tous des vies différentes. Et j'ai souvent ce genre de discussion sur, comme maintenant on se connaît, ils savent quel train-train de vie j'ai. Ils disent, ah, mais toi, tu vis dans un luxe qui est vraiment cette liberté, vraiment du quotidien, etc. Et je dis, ouais, c'est vrai. Et je rencontre des personnes qui ont des cernes jusque-là, vraiment marqué dans la restauration surtout. Le monde de la restauration, c'est terrible, quoi. Marqué, qui tiennent shot de caféine toutes les deux secondes, tu vois. T'arrives le matin, ils en ont déjà bu deux, et avant que tu repartes, avant la fin, ils en ont bu trois. Ils te disent « Ouais, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Enfin, moi, ça fonctionne comme ça chez moi. » Du genre, c'est arrêté, quoi. C'est arrêté, et je tiens à ça. En gros, je tiens grâce à cette façon de faire qui est toujours dans l'intensité. Et ces personnes-là, tant qu'elles n'ont pas goûté à vraiment... plusieurs grosses nuits de 8 heures de sommeil profondes d'affilée, qu'elles ne sont pas rendues compte vraiment de tout le potentiel énergétique qu'elles avaient en elles, et la dette de fatigue qu'elles avaient, ça va être difficile de leur faire comprendre ça, très clairement. Ça va être difficile de leur faire comprendre qu'en fait, tu fonctionnes, certes, mais tu es en mode fonctionnement vraiment au-dessus de l'eau, mais tout juste, hein, tu as la tête qui sort juste pour respirer, hein, mais tu pourrais être en train de danser sur l'eau, quoi. Très concrètement, si tu étais à ton plein potentiel. Mais généralement, nos mots, les mots d'une personne externe, suffiront pas à la convaincre. Il faut lui faire expérimenter ça. Il faut lui proposer, faut lui faire comprendre que là, elle doit prendre un break d'une semaine ou deux. Alors parfois, quand elle part en vacances, elle retrouve ça. C'est pas tout le temps, hein, parce que parfois, les gens sont tellement crevés et au bout du rouleau qu'ils n'arrivent pas à se reposer en vacances.
Ou qu'ils tombent malades dans les vacances.
Voilà, c'est-à-dire que le système crash puisqu'il a un moment de soupape. C'est pas simple, je pense à des week-ends de coupure où ils vont expérimenter justement. Mais bon, là, il faut que l'entourage lui fasse comprendre ça. Hein. Faut lui dise, bon, t'es... soit la personne elle réalise elle-même qu'elle est au bout du rouleau, soit sa famille lui dit, viens, maintenant, tu bosses comme une dingue ou un dingue, on se fait un week-end coupé tout ensemble en famille. En nature, pour voir ce que ça fait, il faut qu'il y ait une piqûre de rappel quelque part. Ça va pas être simple, encore une fois, parce qu'on est pris dans des engrenages de travail et de responsabilités mêlées à du candidaton, mêlées à plein de choses. Mais il faut se forcer un petit peu la main. Je pense que le discours qu'on a là, il est beaucoup plus entendable de nos jours. Plutôt qu'à l'époque de nos parents, par exemple. Hein, à l'époque de nos parents, si tu disais ça, t'étais juste un flemmard. T'étais juste quelqu'un qui voulait pas cravacher, quoi. Mais je pense que maintenant, et Idriss le fait très bien quand il parle justement de l'épanouissement par rapport au travail, ça s'entend. Les patrons le savent aussi, les chefs d'entreprise le savent aussi. Ça peut marcher, mais il faut que ça vienne de la personne, quoi. Il faut qu'elle se dise, tout ce qu'on vient de dire là, ça résonne en elle. Qu'elle regoute un peu à un cadre naturel. Alors ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être très simple, un pique-nique dans le parc le dimanche avec sa famille, etc. Et se dire, ah ouais, c'est vrai que je suis vraiment bien. Je fais une sieste dans l'herbe, c'est vrai que je suis vraiment, vraiment bien, puis je suis entouré par les gens que j'aime. Ça peut être l'alimentation aussi, hein. Beaucoup de gens passent par là. Je change mon régime alimentaire. Parce que je commence à avoir des inflammations, parce que j'ai des problèmes digestifs, mon médecin ou mon thérapeute m'a dit que il fallait que j'arrête de manger des cochonneries, etc. Et ça enclenche une boucle vertueuse. C'est-à-dire, ah bah ouais, quand je prends soin de moi, ça va mieux, bah maintenant j'ai envie de faire du sport, puis je vais m'inscrire à la salle de crossfit, je vais faire ça, et t'enchaînes les choses comme ça. Mais je crois peu en la réalisation du genre Eureka, ah oui, l'illumination, tu vois. J'ai compris, je vis dans un monde qui me torture et je suis pas épanoui du jour au lendemain, tu vois. Je le pense pas. Il faut qu'elle expérimente, la personne.
Le Eureka, je l'ai eu pour le café à mon niveau parce que j'étais un très, 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 très gros consommateur de café. En fait, j'ai beaucoup négligé mon sommeil durant des années. Jusqu'à avoir un enfant qui m'a forcé à le négliger cette fois-ci. Car durant 2 ans, il a pas dormi. Et là, je me suis rendu compte réellement que j'étais en dette de sommeil et j'ai surcompensé par du café. Parce que pile poil, au même moment, je lançais mon entreprise. Donc, stress du lancement, enfant, nuit catastrophique, du coup, débouché sur caféine. Et je pouvais tourner jusqu'à 2 cafetières par jour d'un café que je faisais moi-même. Donc, je surdosais déjà la base. Donc, l'équivalent, je sais pas, de 10-12 expresso par jour, je pense. Ouais. J'en tremblais, littéralement. Donc, jusqu'à me dire, effectivement, au bout d'un moment, que stop. T'arrêtes tes conneries, tu stops, tu arrêtes. Mais c'est compliqué. Oui. Très peu de personnes fonctionnent comme ça. Moi, j'ai souvent cette notion de j'arrête un truc, j'arrête immédiatement.
Parce que je pense aussi, t'as touché le fond, t'as touché un truc qui était loin.
En fait, je me suis méta-analysé, comme tu l'as dit précédemment. Est-ce que tu veux être ce mec qui dépend du café et qui tremble toute la journée et qui est sur les nerfs, qui se prend la tête avec les autres à cause de ça? Non, tu veux pas être lui. Du coup, tu reviens à ta situation initiale, tu arrêtes et t'apprends à dormir plus efficacement aussi. Mais c'est compliqué, effectivement, d'arrêter dans le dur. Et surtout qu'Aurélie me prévenait avant. Elle m'avait dit, effectivement, il faut que t'arrêtes, limite, machin. Mais tout ça pour revenir au fait qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et au début, je ne voulais pas être aidé. Parce que pour moi, la situation, je la gérais, je la contrôlais. Je n'avais pas cette motivation intrinsèque de changer les choses. Et du coup, une motivation extrinsèque ne suffisait pas à me motiver. Donc, tout ça pour dire, effectivement, que les gens, il faut leur donner des billes de réflexion, mais pas imposer son dogme, son propre monde, son propre environnement à leur vie. Parce que ça va créer un blocage. Et du coup, la personne risque encore plus de s'entériner dans ce comportement que vous jugez vous comme étant négatif plutôt que d'en sortir. C'est pour ça qu'aider les proches est si compliqué.
Mais est-ce que aider quelqu'un est déjà possible? C'est ça qu'il faut se demander. Hein. Parce que c'est...
Ouais, c'est vrai. Et puis, qui sommes-nous pour aider quelqu'un?
Exactement. Pourquoi tu t'infliges cette responsabilité-là aussi? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un poids? Comme on le répète sans arrêt par rapport à l'étude de l'apprentissage, où on sait maintenant que l'erreur fait partie de l'apprentissage, c'est même, on a presque envie de dire, j'ai encore, tu sais, je prends des cours de peinture, mais comme vous voyez, j'aime le dessin, mais je prends vraiment des cours de peinture à l'huile en ce moment, et j'ai un professeur qui est incroyable, vraiment merveilleux. Et il disait bien, je préfère que vous échouiez maintenant, c'est-à-dire au début du processus, que vous fassiez des erreurs, plutôt que vous vous engagez sur une route où... ce sera beaucoup plus dur plus tard de corriger des imperfections. Il faut mieux échouer tout de suite, échouer rapidement, parce que ce que dit Taleb dans Antifragile, hein, il dit vous devez adopter la psychologie de la Silicon Valley, c'est-à-dire soyez fou et échouez rapidement. Donc tentez des trucs complètement dingues où vous avez très peu à perdre mais beaucoup à gagner, et faites plein d'erreurs rapidement, échouez rapidement dans le début du processus, parce que ça va vous faire une courbe d'apprentissage absolument dingue. Je sais plus pourquoi je parle de ça.
On parlait de la peinture précédemment, on parlait du fait d'aider les autres. Est-ce qu'on peut réellement aider les autres?
C'est ça, c'est que les autres, il va falloir accepter aussi qu'ils fassent leurs propres erreurs. parce que ça fait partie de leur chemin de vie, et que c'est finalement presque ce qu'il y a de plus souhaitable pour eux.
Oui.
Donc, au lieu d'essayer de les préserver de l'inconfort, les préserver de faire des erreurs et de ce qu'on considère à tort comme des échecs, au lieu d'essayer de les préserver, de dire « voilà, je veux pas que tu souffres, donc je vais te donner les bons conseils pour que tu fasses pas d'erreurs et pas d'échecs, et que tu sois jamais dans l'inconfort, etc. » En fait, on leur tire une balle dans le pied, quoi. En fait, on les empêche de bien progresser. Il faudrait... Moi, je préfère beaucoup plus souhaiter à quelqu'un la liberté plutôt que le bonheur. Tiens, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui fugace. Le bonheur, ça va, ça vient. Un coup, t'es joyeux, un coup, t'es malheureux. Un coup, t'as une bonne nouvelle, un coup, t'as une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle peut engendrer quelque chose de bénéfique derrière. Encore une fois, les ports, les limites sont très poreuses, quoi, de tous ces concepts-là. Où est-ce que tu fais arrêter la bonne et la mauvaise nouvelle, quoi? Parce que ce qui a donné la bonne nouvelle, c'est peut-être une situation qui était difficile et malheureuse. C'est toujours très compliqué, tout ça. Moi, je préfère que la personne, elle ait vraiment ce sentiment de liberté. De liberté du choix. Un choix complètement ouvert, un champ des possibles complètement ouvert. Ce n'est pas le fait de choisir telle option ou telle option, c'est avoir le choix. Et une fois que tu as le choix, que tu as cette sensation de te dire « je suis libre », là, tu peux te dire « bon, bah, puisque je suis libre, je vais commencer à prendre les bonnes décisions pour moi. Je vais commencer à m'engager vers un chemin qui me respecte moi-même, qui est en corrélation avec mes valeurs profondes, d'amour, d'amitié, de paix, de sincérité, de tout ce que vous voulez. Mais tant qu'on se sent bloqué, opprimé, ou la seule voie, c'est un jeu de cases où il n'y a qu'une seule case à jouer, quoi. C'est un seul truc, quoi. Et ben c'est très terrible, en fait. Après, c'est de l'auto-sabotage, parce qu'on se dit je mérite pas d'aller bien. Et donc, comment mettre en place une discipline si on n'a aucun choix possible devant nous, si on n'a qu'un seul chemin? Voilà. Donc, il faut reconsidérer notre système de pensée, acquérir un nouveau mode de connaissance. Ça, c'est tout ce qu'on essaie de proposer dans le CNH, hein, très concrètement. C'est-à-dire, vous voyez le monde d'une certaine manière, mais dites-vous bien que ça a été formaté par ce qu'on a reçu en héritage, surtout de la pensée grecque, hein, avec ce dualisme, avec tout ce qu'a dit Platon, tout ce qu'a repris Descartes derrière, voilà, qui n'est pas du tout partagé par exemple, le monde oriental, hein, très concrètement, actuellement. Et vous pouvez changer de lunettes. Vous pouvez changer votre mode d'acquisition de la connaissance par rapport au monde qui nous entoure. Le voir autrement. Et vous aussi, vous considérez autrement. Et ça, cette prise de décision-là, elle prend pas de temps. Elle est immédiate. Ça demande pas de matériel. Ça demande juste une réflexion. Juste de poser un regard qui est différent sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et c'est immédiat. Et ça, c'est vraiment très plaisant aussi.
C'est vrai que c'est le fait de quitter les cases qui nous sont imposées.
Ouais.
Tout simplement, on est tous entourés de cases. Il faut les faire sauter pour trouver un autre monde qui se cache derrière ces cases en question. Il y a une case que j'aime bien faire sauter qui rejoint un peu ce que tu as dit précédemment. C'est celle des modèles de productivité où on doit tout millimétrer. Du réveil au coucher. Où il n'y a strictement aucune place au hasard. Sauf que ces méthodes-là ne tiennent pas compte de la théorie du chaos qui dit que la volatilité fait partie de la vie. À nouveau, on est dans l'environnement, l'environnement est en nous. Et ça, du coup, les gens qui ont ces systèmes-là, au final, finissent inévitablement par s'écrouler, parce qu'ils ne peuvent jamais justement anticiper les imprévus. Moi, à l'inverse, ce que j'ai dans mon système personnel, ce sont des trous. J'ai un maximum de trous. Une image que j'aime beaucoup, que j'ai piquée à Cédric Watine, un podcasteur qui est vraiment une personne très proche, c'est l'image du taquin. Tu sais ce que c'est un taquin, c'est le jeu, tu as des cases que tu déplaces, etc. Quand tu as une seule case, c'est compliqué pour le faire. C'est très complexe. Mais quand tu as deux cases d'absente, trois cases, cinq cases, dix cases, ça devient très simple. En fait, il faut voir son organisation de la même façon, comme un taquin, avec des trous. Comme ça, dès qu'un imprévu arrive, on peut tout switcher, on peut bouger les choses et encaisser l'imprévu pour ne pas se laisser déborder. Et s'il n'y a pas d'imprévu, c'est génial. Parce qu'on peut du coup prendre de l'avance sur le temps futur. Soit en faisant sa séance de sport aujourd'hui au lieu de demain, soit en faisant un travail plus tôt, soit en allant marcher encore plus. On est davantage libre dans un système là où aujourd'hui on nous impose effectivement un ultra-contrôle de A à Z en nous vendant le fait que l'ultra-contrôle est la liberté. Alors que c'est faux. C'est justement la présence de zones tampons, comme moi je les appelle. Je me réserve 1h30 par jour sans rien. Je ne dis pas que je ne fais rien à nouveau, mais qui me permettent d'encaisser les imprévus ou de prendre de l'avance. Comme ça, je ne suis jamais à courir après le temps. Alors que tous les gens actuellement courent après le temps. Littéralement.
Je pense à te donner cette zone-là où concrètement tu sais pas ce qui va se passer. Voilà, très concrètement. Te donne une autre force c'est que le jour où justement il y a un imprévu qui fait sauter toutes les autres zones, il y a un rendez-vous que tout d'un coup tu dois partir et ta journée n'est pas du tout remplie comme tu l'avais prévu, il y a véritablement l'imprévu qui empêche la zone d'imprévu, il y a tout qui est chamboulé, et ben t'es plus décontenancé, quoi. C'est-à-dire tu changes ton regard par rapport au fait même qu'il y ait des imprévus dans ta vie. Mais tant qu'on ne le considère pas, comme tu le fais à ta manière, tant qu'on ne prend pas le temps de considérer que la volatilité fait partie de la normalité du monde, on va toujours penser que c'est ce qui n'est pas souhaitable. C'est exactement à l'inverse de ce que nous propose le monde actuel, c'est ce qui serait souhaitable et normal, c'est linéarité et confort. Ça, c'est ce qu'on devrait atteindre si on réussit sa vie. L'expression la plus pourrie au monde, comme si il y aurait un moyen d'échouer sa vie, tu vois. Ça nous fait une pression sur nous comme une épée de Damoclès. Il n'y a pas à échouer ou réussir sa vie. Hein. Il y a juste à la vivre. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de la vivre. Hein. Cette volatilité-là, elle est c'est le constituant fondamental de la nature. Et c'est ce qui nous a permis d'être. Si c'était pas volatile, donc c'était pas hasardeux, les événements qui arrivent autour de nous, on n'aurait pas développé une physiologie qui est adaptable, hein, qui peut s'adapter à toutes les situations et qui progresse. Hop, c'est hasardeux, donc je développe des nouvelles capacités pour m'y adapter, etc. Donc en fait, le hasard, il prend soin de nous. Ce que nous dit la société actuelle, c'est que le hasard, il nous détruit. Il nous propose vraiment l'objet opposé, c'est... Vous ne voulez pas vivre des températures ambiantes différentes. Il vous faut une clim et un chauffage constant dans la maison et au travail. Vous ne voulez pas changer de travail. Non, non, vous ne voulez pas. Vous voulez garder le même travail. Tout le monde dit c'est mieux. Vous ne voulez pas changer de salaire. Il faut que ce soit fixe. Vous voulez un crédit pour acheter la maison, la voiture, etc. et rembourser la même somme d'argent tous les mois. Et on essaie de nous faire croire que, justement, encore une fois, ce confort est un objectif. Et qui passe par la linéarité. Ça, c'est pour moi, il n'y a rien de plus faux. En tout cas, ça va à l'encontre exacte de toutes les lois du vivant. Et donc de notre épanouissement aussi. On se sent beaucoup mieux quand on est en harmonie justement avec le monde qui nous entoure, qui n'est qu'une impermanence. Hein, on prend pour permanence ce qui est impermanent. Hein, très concrètement, hier, on a fait un live avec Steve sur mon Instagram où on a parlé beaucoup de ça, l'illusion du soi. C'est-à-dire l'illusion d'un soi permanent. Ça aussi, je l'ai transmis au second stage du centre. On prend pour synthèse ce qui est composé. Ça, j'ai l'impression que c'est une seule bouteille. Bon, après, je vois bien qu'il y a un peu des morceaux, hein. Il y a un bouchon, un truc un peu différent, mais pour moi, c'est un objet. Puis moi, j'ai l'impression que je suis un. Toi, j'ai l'impression que t'es un aussi, t'es un individu. Pourtant, t'es composé. Si on y réfléchit un peu, on sait très bien. Il y a des organes, il y a des cellules, il y a des atomes. Le truc, c'est composé, en fait. Et donc, en fait, toute synthèse est une construction de l'esprit. Toute synthèse est une construction de l'esprit. On prend pour un ce qui est composé. Et on prend pour permanent, et il ne bougerait pas, soit j'ai l'impression que c'est permanent, tu vois, j'ai pas l'impression que ça bouge. Pourtant que les atomes, ils sont en train de se dégrader, et dans 5000 ans, la bouteille, elle n'est plus là. C'est retourné dans du sable et des atomes. Donc on est trompé par ça. Et on est trompé donc par l'esprit qui se trompe lui-même, et on pense, nous-mêmes, moi, Pierre Dufraisse, inconsciemment, je me vois comme permanent, comme une entité. Une identité que je devrais un peu protéger, quoi, préserver, etc. Et tant que j'aurai des actions assises sur ce socle-là, je vais répéter des habitudes qui sont très mal tournées vis-à-vis de mon ego, et je vais répéter par rapport à la peur de cette perte-là, de cette perte d'identité, la peur de ce que vont dire les gens sur cette identité, sur moi, et je vais agir sur cette base-là. Et ça, c'est les causes de la souffrance pour les bouddhistes. C'est-à-dire, vous allez tourner dans la roue éternelle de l'insatisfaction. Sans cesse insatisfait de « je devrais être plus comme ci, plus comme ça, ceci, cela. Hein, » Et ça ne finit jamais. Donc oui, il faut casser ce système de pensée-là. Vraiment complètement le casser.
Mais est-ce qu'on peut s'en séparer? Est-ce qu'il n'est pas bénéfique également, dans un sens? Moi, je me considère comme étant sportif. Je veux rester sportif, donc je fais du sport, ce qui est bon pour mon corps. Après, effectivement, il ne faut pas tendre à l'outrance. Il ne faut pas aller ultra loin. Il ne faut pas non plus dépasser les bornes. On est bien d'accord. Mais en fait, justement, impulser un « je suis » ou « oui, je suis quelqu'un, je suis cette personne qui fait telle action » ne pousse pas justement à adopter des bons comportements. Ou des mauvais également, bien sûr. Il y a forcément le verso. On est bien d'accord. Mais est-ce que c'est pas nécessaire justement en termes de dopamine, en termes de projection, en termes d'anticipation des choses, que de se considérer comme étant un individu qui a tel comportement ou qui appartient à telle classe?
Est-ce que ton individu, tu le considères comme étant dans le monde ou à part du monde? Parce que c'est exactement ça, en fait. Le cœur du problème, c'est pas du tout l'illusion du soi, comme on essaie de le transmettre, et comme les sciences cognitives aussi, occidentales, commencent à nous le transmettre également. C'est pas du tout penser qu'il n'y a pas d'ego ni d'identité. Il y a un ego et une identité. C'est que c'est l'illusion, ce serait de penser qu'il n'y a pas de connectivité avec le reste. On a chacun un ego et une identité. Toi, t'es Jérémy, moi, je suis Pierre. Et ça ne changera pas, et c'est très important, hein. Très important de le maintenir. Mais cet ego et cette identité est simplement un point dans une toile d'araignée. C'est un nœud, une bifurcation, hein, d'un ensemble qui est intriqué. L'illusion, ce serait de penser que cette identité-là est permanente, ça ne changera jamais. Tu n'évolueras jamais, tu ne bougeras pas, tu vas pas te dégrader, un jour tu vas pas mourir. Hein. Et qu'on est isolé. C'est-à-dire que ça, c'est séparé de moi. C'est ça, en fait. La double illusion, la double méprise, c'est de penser que on prend pour permanent ce qui est impermanent. Moi, en fait, je vais changer. Je suis en train de changer. Je suis en train de mourir. Je suis plus en train de mourir que de vivre. Ça, c'est la première méprise. Et la deuxième, c'est de penser qu'on est séparé. Hein, qu'il y a des synthèses alors que tout est composé, tout est interconnecté. En fait, c'est ça qu'on veut nous dire. L'illusion du soi, c'est pas qu'il n'y a pas de soi. C'est de penser que le soi, il est permanent. Donc, l'ego et l'identification, elle est vachement intéressante, elle est vachement pertinente, mais elle va connaître une double nature beaucoup plus profonde quand elle va s'inscrire dans une interconnexion où tout d'un coup il y a la compassion qui est possible, l'altruisme, autrui, où il n'y a plus de compétition malsaine, puisque tu comprends bien qu'à partir du moment où tu sépares les choses, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une compétition de « l'autre ne mérite pas d'être devant moi, je devrais être le premier, je devrais battre l'autre », etc. C'est beaucoup plus facile de se mettre en confrontation et de se noyer un peu dans ce genre d'émotions plutôt que de se voir tous ensemble naviguant dans un même monde et en interrelation, et donc la porte ouverte à la compassion, et donc ça ouvre une perspective qui est tout autre par rapport à soi-même, par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais encore faut-il avoir le temps, créer cet espace-temps. C'est juste un espace-temps, c'est juste un moment de silence, c'est juste un moment d'attention ouverte sur notre mécanisme de l'esprit, sur le fait de voir est-ce que je mets mon ego au service de mes idées ou mes idées au service de mon ego. Encore une fois, comme pour citer Idriss, qu'est-ce que je remplis là, en fait, là, comme tâche? Qu'est-ce que je poursuis comme objectif? Est-ce que cet objectif, il est basé sur une peur, encore une fois, cette cristallisation d'une identité que j'aimerais préserver à tout prix, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de qui est libéré par rapport à ça? Et je le fais parce que je le kiffe, cette activité. Je le fais parce que je me sens utile. Ça m'est utile à moi par rapport au fait que je me respecte aussi, que je m'aime et que j'ai envie de progresser dans certains domaines qui me font kiffer. Et j'ai tous les droits de ça. Et est-ce que, aussi, je peux me servir de ça, de cette force que j'ai en moi, pour autrui, pour aider autrui, pour inspirer, etc. Donc tu as une roue qui est beaucoup plus vertueuse à partir du moment où tu rentres dans ce système-là, plutôt que, justement, le système inverse, où on est cristallisé chacun dans son coin, et on veut protéger son lopin de terre, hein, séparé des autres. Tu vois la différenciation?
Je la vois, bien sûr, et moi, je veux inspirer par ma pratique sportive, notamment mes enfants, on est bien d'accord.
Ouais.
Parce que je veux être un modèle pour eux, et dès à présent, mon fils de 4 ans fait du sport. Et le sport à sa façon, il prend mes kettlebells, il tente des choses, c'est merveilleux à voir, et je veux effectivement lui inculquer cette valeur sportive. Après, est-ce que c'est pas égoïste de lui inculquer une valeur qui m'est propre à la base? Je sais pas, hein, c'est une vraie question, mais dans tous les cas, moi je ne le forcerai pas, pardon, à faire du sport. Mais effectivement, je veux lui montrer que je suis sportif, que ça a des vertus, que ça a des effets, que ça a des bénéfices. Après, libre à lui de s'inscrire là-dedans ou pas.
Voilà, à partir du moment où tu lui donnes la liberté de voir les limites du modèle, c'est ça qu'il faut essayer de transmettre quand on transmet une idée, un concept. Quand on parle tous les deux de neurosciences, quand on parle tous les deux d'une nouvelle hypothèse ou une théorie qui est vraiment bien établie, comme quand je vous ai parlé des chatons qui étaient aveugles, etc., ça s'appelle ce que Francisco Varela a appelé l'énaction. Le fait d'être, d'avoir une action nourrie dans l'environnement qui nous entoure, qui nourrit la perception nourrit l'action, etc. C'est comme ça que notre système nerveux se crée. Quand tu présentes un concept comme ça, avoir une approche non dogmatique, en disant pas « je vous présente la vérité, mais je vous présente la théorie », voilà d'où ça vient, voilà comment on sait ce qu'on on a su, hein, c'est ce qu'on a fait encore une fois dans le centre avec Pierre, en faisant de l'historique à chaque fois, c'est-à-dire l'épistémologie, l'étude du savoir, comment on a su ce que l'on sait maintenant. On vous présente le cadre pour que vous voyez bien les limites du concept, parce que tout concept est incomplet. S'il est cohérent, il est forcément incomplet. Il y a forcément des vérités qui nous seront inaccessibles dans ce concept-là parce qu'on est à l'intérieur même de la bulle. Ça, c'est vraiment les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel, hein, qui a défriché ça. Pierre, il vous en parlera aussi bien mieux que moi. Et donc, si tu proposes à tes enfants un cadre où, sans coercition, sans force, sans obligation, tu transmets des valeurs par ce que tu incarnes, moi c'est parfait. Tes enfants, ils vont pouvoir voir tes erreurs, ils vont pouvoir voir tes réussites, ils vont pouvoir voir tirer les bonnes leçons de tout ça, ils vont pouvoir expérimenter par eux-mêmes, voir s'ils aiment ce que tu pratiques aussi, en termes de tout, du quotidien, c'est-à-dire comment tu travailles, comment tu es avec ton épouse, comment tu parles. Et tant que c'est pas autoritaire et dogmatique, ils vont pas se dire « c'est un modèle qu'il faut que je suive absolument ». Ils vont se dire « voilà comment fait papa, ça j'aime bien, ça j'ai essayé, j'aime pas trop, et le champ des possibles est tout le temps ouvert. Tu leur offres la liberté. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi je m'en fous de la joie, du bonheur, et c'est bien quand ça arrive, mais je sais très bien que la vie ça peut pas être que ça. Par contre, si on me prive de liberté, là je suis capable de devenir fou. Et je l'ai bien vu, hein, dans les quelques fois où c'est arrivé dans ma vie, surtout dans le monde du travail, j'ai claqué la porte du boulot en 5 minutes. Mais alors, véritablement en 5 minutes. Hein. Alors que 5 minutes avant, tout allait très bien. Et tous les gens de mon entourage me disent « mais comment t'as fait ça, quoi ?» Tu sais, les gens, ils étaient choqués. Ils disent, ah bon, d'accord. Ah bon, bah c'est fini, tu t'en vas. Ah ouais, là, je m'en vais, là, direct, parce que c'est pas possible. Cette sensation de liberté, de privation de liberté, beaucoup de penseurs, des chanteurs aussi, hein, il y a plein de gens qui ont chanté sur la liberté, à quel point c'était... Ben voilà, et pensons à notre cher Florent, la liberté de penser. Prenez tout chez moi, je m'en fous. Par contre, touchez pas un truc, c'est ma liberté de penser. Mais c'est clair, il avait tout dit, ce cher Florent. Mais ouais, si tu offres ce cadre-là à tes enfants, en inculquant des choses qui sont belles, des valeurs humaines, qui sont très, très sincèrement, hein, partagées par tous, il y a peu de chances que tu te trompes quand tu inculques la bonté, la bienveillance, la gratitude, la gentillesse, etc. Franchement, il y a peu de choses pour se tromper. Et puis c'est bon, de temps en temps, de te voir en colère, de voir quand tu dérapes, de voir des choses qu'il ne faut pas faire, parce qu'encore une fois, ils vont se dire « Ah, ça, c'est pas bien, c'est une erreur. J'apprends des erreurs des autres. » C'est les gens intelligents qui font ça, ils apprennent des erreurs des autres. Et ben voilà, pour moi, c'est le cadre parfait.
Mais c'est vrai que je tâche également à fixer ce cadre dans mes prises de parole, dans mes vidéos, mes podcasts, en présentant simplement les éléments. Effectivement, typiquement, tu manges un repas sucré, tu auras un pic de glycémie qui induira une baisse de la productivité, de la motivation, des conséquences sur la santé. Ça, c'est le tableau. Ça a été montré par les études, qu'on peut pondérer du coup avec ce qu'on a vu précédemment, mais ça a été montré, ça se ressent, tu connais les conséquences de tel comportement. Moi, je ne t'impose rien. Par contre, la prochaine fois, effectivement, que tu as ce comportement-là, ne dis pas que c'est de la faute de l'État, que c'est la faute à pas de chance, si t'es fatigué, si t'es moins productif. Juste assume les conséquences. C'est vrai que c'est un travail que j'aime bien faire, même par rapport à mes enfants, en fait. Tu fais une action, il va se passer ça, il y aura des conséquences. Maintenant, en fait, tu réagis en fonction de le cadre est posé, tu sais ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Mais tu assumes effectivement, par contre, le chemin que tu empruntes. Donc, sans parler de dogme, juste je trouve que montrer les conséquences positives comme négatives, bien évidemment, on n'est pas que sur du négatif, d'une action, est vraiment important, je pense aussi. Parce qu'en plus, le cerveau, comme tu le sais très bien, par Carl Friston, est prédictif. Donc, si tu montres la conséquence, il va savoir là où il va aller. Donc, il va commencer dès à présent à employer des mécanismes qui vont soit le faire tendre à ce comportement, soit le faire fuir ce comportement en question.
Donc, et pour ajouter une pierre à cet édifice que tu as très bien expliqué là, c'est important pour moi aussi que la conséquence soit analysée par la personne elle-même. Oui. C'est-à-dire que tous les deux, on essaye de transmettre du savoir sur Internet. C'est difficile de pas être dans le jugement et dans la transmission de conclusions qui sont déjà arrêtées. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, ce que tu viens de dire sur le pic de glycémie, etc., et par rapport à l'insuline, etc. J'essaye de plus en plus, vraiment, de mettre de la nuance derrière ça, et mettre du conditionnel. Tu vois, je milite pour le retour au conditionnel, c'est-à-dire, il se pourrait que vous ayez une baisse de productivité, parce que tu sais très bien que chez certaines personnes, si elle est en hypoglycémie, autant ça va lui sauver la vie de manger un truc sucré, et ça va augmenter, tu vois ce que je veux dire. Et le fait même de dire, si vous mangez quelque chose de sucré, ça va baisser votre productivité, tu conditionnes le cerveau de la personne pour qu'elle elle réagisse de cette manière-là. Et donc, peut-être que tourner la chose de la manière suivante, c'est-à-dire repenser à la dernière fois où vous avez mangé quelque chose de sucré, qu'est-ce que ça a fait sur votre productivité ? Il se pourrait que vous vous rendiez compte que, en effet, vous aviez passé une après-midi où vous aviez eu un crash énergétique. Et donc, il se pourrait que ça vienne de cet aliment très sucré que vous avez mangé en trop grande quantité à ce moment-là. Et donc, ça pourrait que venir du pic d'insuline, tout ça. Et on déroule la pelote de manière rétroactive, en encourageant la personne à se dire, maintenant, prenez le temps d'observer après coup vos ressentis, après avoir fait telle activité, les respirations, la méditation, qu'est-ce que ça fait pour vous ? Avec option numéro 1, ça a bien marché, vous vous êtes senti mieux, ok, check, on garde, on essaiera de répliquer ça. Option numéro 2, ça n'a pas bien marché, quelles conséquences, dans quel contexte vous avez pratiqué, pourquoi, comment, etc. Et poussez à la réflexion, poussez à la synthèse, poussez au travail de sa propre analyse et d'introspection, plutôt que de fournir un résultat qui va créer un biais cognitif, tu vois ce que je veux dire, et qui va les orienter. Puisque, comme tu l'as très bien dit, on a un cerveau qui est prédictif, mais il est toujours prédictif par rapport au modèle qui est installé comme un logiciel dans le cerveau. Donc pas facile de pas trop influencer, juste de guider.
Voilà. Je sais que c'est difficile de tout mettre au conditionnel.
C'est ça.
Il se pourrait que, de ma compréhension des choses, de l'état actuel de la connaissance en science, il se pourrait que...
C'est ça.
C'est vrai que c'est pas évident. En plus, les gens aujourd'hui ne veulent pas de « il se pourrait que ».
Pas de nuance.
Ils veulent des pilules magiques qui répondent facilement à un problème donné sans faire d'efforts et sans changer de mode de vie. Donc ça, c'est compliqué d'inculquer ça également, de cette notion de, en fait, t'es ton propre laboratoire. Mmh. La science dit ça, les données empiriques disent ça, maintenant teste.
C'est ça, c'est clair. C'est très intéressant, hein. C'est vraiment pertinent d'avoir des données empiriques, hein, vraiment. Mais ça doit être pas plus que des orientations, ça doit être pas plus que des indications. Après, le chemin, il se fait en marchant. C'est ça le truc. C'est qu'on a bien vu que pour les petits chatons, pour développer un système visuel, il fallait que marcher pour créer le chemin, très concrètement. Donc nous, on ne peut que arpenter le chemin après. Et il se pourrait qu'il soit vraiment différent de ce qu'on a lu dans les livres, très concrètement. Pierre Etchart, dans le dernier stage, il nous avait bien dit à la fin, vous savez, le fameux primum non nocere pour les médecins et les thérapeutes, premièrement ne pas nuire, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. On dit c'est la première indication, mais en fait, c'est la dernière aussi. Il n'y a rien de plus dur que de ne pas nuire. Rien de plus dur. Donc, tous les mots qui sortent de notre bouche, et a fortiori à l'ère d'Internet, il faut les tourner 20 fois dans sa bouche, mettre du conditionnel partout. c'est super dur de se prononcer. Donc, de plus en plus, moi, je ne me prononce plus du tout. Hein, je botte en touche. Je dis « ça dépend. Au revoir. Expérimentez. Et puis, pas plus, quoi. » Et t'as bien vu les réactions que ça provoque dans notre école, au CNH. Mmh. Les personnes qui comprennent pas pourquoi on prend du temps à étudier, à mettre de la nuance partout. On veut vite les recettes, quoi. Balancer les recettes, balancer le x2, balancer les synthèses et les mind maps. Et moi, je suis là, non, je freine des cas de fer. Non. On va prendre notre temps. Et on va pas s'aventurer dans des dogmes pas constructifs, quoi. Ça va vous détruire plus que vous apporter qu'autre chose.
Mais tu penses pas qu'il faut commencer par les dogmes ?
Oui, si on peut les dépasser.
Voilà, si on peut les dépasser, effectivement, je reprends le cas de la musculation. Quand j'ai commencé, j'étais en plein dans les dogmes. Mm-hmm. Tu fais du 4x12, là, machin. En fait, juste, j'exécutais parce que j'avais pas les connaissances ni le recul pour me créer mon propre programme. Mmh. Après, j'ai pu m'en détacher. Mais effectivement, au début, je pense qu'on doit être dogmatique, voire imposer une pensée dogmatique pour que la personne puisse s'en extraire aussi. Et du coup, à nouveau, lui montrer les limites.
Comment tu fais pour sauter par-dessus une barrière que tu vois pas ?
Oui, bah oui, bien sûr.
Tu peux pas la sauter. Tu es obligé de la délimiter, d'abord. C'est ce qu'on a fait avec Pierre. C'est-à-dire, on est obligé de délimiter le cadre d'un dogme. Tant que tu vois pas les limites du cadre, du dogme, tu peux pas sauter par-dessus, tu peux pas le dépasser. Les dogmes, on en a plein. Et surtout, ils nous sont imposés. la pensée grecque, par exemple, t'as comment il s'appelle ? Schrödinger. Schrödinger qui a écrit, c'était traduit par Michel Bitbol, Schrödinger qui a écrit justement sur la pensée grecque et comment, en fait, c'est notre héritage et ça nous est imposé. C'est-à-dire, on ne peut pas se faire l'économie de la connaissance de la pensée grecque. C'est pas qu'on est obligé de l'étudier et que ce serait bien de l'étudier. C'est que, à force, par force, ça nous est imposé par le fait qu'on naisse en France. Les façons de voir le monde nous est imposée par la pensée grecque. Ok, d'accord, donc t'as deux choix. Si tu veux dépasser ce dogme qui t'est imposé dès ton enfance, soit tu l'étudies pour en voir les limites, et là tu pourras le dépasser, soit tu navigues toute ta vie en regardant le monde avec certaines lunettes, et tu penseras toute ta vie que le monde est duel, que ta peau c'est une barrière par rapport au monde, donc qui te sépare des autres, que les microbes, les virus c'est des méchants, que l'extérieur c'est sale, tu vois, que les animaux c'est sale, il faut se laver les mains dès que tu touches un caillou, et tu navigues dans des dogmes comme ça. Si tu veux les dépasser, la seule manière de le faire, c'est d'en voir les limites. Encore une fois, de voir la barrière pour pouvoir sauter par-dessus la barrière. Tant que tu la vois pas, voilà. Et donc, je te rejoins, les dogmes, on en a besoin partout. On est pléthore de dogmes. Mais, à partir du moment où tu prends un pas de recul et que tu les vois dans leur entièreté, tu sais prendre ce qui est intéressant chez eux et les dépasser, et aller voir d'un dogme à l'autre. C'est ce que disait Bruce Lee, hein, il disait « Prends l'utile, rejette l'inutile et y ajoute-y ce qui est proprement toi. » C'est exactement ça, quoi.
Non, mais que dire de plus, c'est très juste. Mmh. Merci Bruce Lee.
Ah ouais, non, mais Bruce Lee, il avait tout dit. C'est ouf, ce type. Le contexte, tu vois, quand on parle de contexte, oui. et d'environnement, t'as une scène dans... Je crois que c'est dans Le Jeu de la Mort, mais je suis pas sûr. Ou en Opération Dragon. C'est peut-être Opération Dragon. Il parle avec son vieux maître. Le vieux maître, c'est avec la petite barbichette blanche, là. Et le vieux maître, il teste Bruce Lee pour voir si Bruce Lee, il est arrivé au niveau... maître, quoi. S'il a arrêté d'être un disciple. Et le vieux maître dit à Bruce Lee, quand tu donnes un coup de poing, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et Bruce Lee, il dit, je ne frappe pas. Ça frappe tout seul. It hit itself. C'est genre, je crée toutes les conditions pour que le coup de poing advienne. C'est-à-dire, placement des pieds, mouvement des hanches, épaules, et ça frappe tout seul. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas moi qui frappe. C'est que je mets tout en place pour que ça advienne. C'est toute la psychologie d'Ido Portal, tout ce qu'il nous transmet dans ses enseignements par rapport au mouvement, il n'y a que ça. C'est-à-dire, vous devez jouer sur l'environnement, et lui joue beaucoup sur l'attraction terrestre, tu vois, la chute du poids et le fait que le sol te renvoie la force que tu lui donnes, pour l'élasticité, etc. C'est pour ça qu'il arrive avec des mouvements, enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos d'Ido où il va très très vite. C'est incroyable, tu vois pas les... Moi, je l'ai vu de visu en vrai, quand je suis allé faire son stage à Lisbonne, je ne voyais pas ses mouvements avec les yeux. Et l'entraînement, c'était, vous allez rester devant le miroir pendant une heure, et vous allez faire des mouvements où vous allez essayer de chuter, en fait, et que le sol vous renvoie la force que vous lui donnez, pour accélérer. Au bout d'une heure, tu trouves des progrès, mais lui, je pense qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. C'est incroyable. Voilà.
Non, mais c'est bluffant, effectivement, même au niveau des arts martiaux, la rapidité des gestes, des coups qui sont donnés, parce que la personne, effectivement, déjà a créé des chemins neuronaux, sans prendre la partie presque scientifique, mais surtout, à nouveau, comme tu l'as dit, il met toutes les conditions en place pour que ça se passe bien. Le pied et tout, ça devient instinctif, et du coup, effectivement, frapper n'est que la résultante des actions mises en place précédemment.
Exactement. Exactement. Le parti, la qualité des parties, la qualité des détails, créer le tout. Là, il y a tout, là. Cette phrase que tu viens de dire, elle est vraiment essentielle. Si vous devez retenir un truc de ce podcast, c'est ça. La qualité de chacune des parties crée le tout. Il n'y a pas d'épiphénomène dans la nature. C'est ce qu'on voit dans tous les katas, dans toute la psychologie japonaise, dans la cérémonie du thé, dans les arts martiaux, comme tu l'as dit, dans la cuisine, où le maître sushi prend son temps pour découper chaque lamelle parfaitement et tous les gestes sont ritualisés, etc. Parce qu'il sait que c'est déjà, en fait, la dégustation, ça. Il sait que ça fait partie du repas. La cérémonie du thé, quand la personne met son kimono, elle sait déjà que c'est le thé, ça. Et finalement, la résultante, elle est secondaire par rapport au processus. Le processus est déjà partie prenante du résultat. Et ça, c'est vraiment ce que l'on a, nous, intriqué dans le monde, où on est un détail du monde, mais on co-crée le monde. Il y a une co-origination, comme disait Varela, par rapport au phénomène et nous, très concrètement. Et moi, je le vois par rapport à la peinture, où quand tu fais ta palette, le prof de peinture, il te dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà la peinture. Vous bâclez un peu ça, bâclez un détail du mélange des couleurs et tout, vous mettez déjà en place la stratégie de l'échec. Si vous prenez le temps de bien faire chaque détail, le résultat s'offrira à vos yeux de lui-même. Et donc, ne pas négliger les petits détails au quotidien. Quand on veut devenir, être en bonne santé, atteindre une performance physique ou mentale ou quoi, chaque détail compte. Et donc chaque détail peut être considéré comme une progression et avoir un sentiment de progression qui est si important pour l'esprit humain.
Ça me rappelle la publicité avec Zidane.
Oui, chaussure gauche, à droite. Voilà.
C'est vrai que chaque personne a ses propres rituels, effectivement, qui te placent à nouveau dans le cerveau qui est prédictif. Effectivement, dès que tu commences ton rituel, tu es déjà dans l'action au final. Moi, c'est pareil, avant d'être sous une barre de développé couché, à chaque fois, j'ai la même position de même mécanisme, la même routine.
Un altéro. Bien sûr, tu les vois, le placement des pieds.
Depuis le départ, j'ai trouvé mon rituel à moi, je l'applique et il fonctionne. Et dès lors qu'il n'est pas présent, je me conditionne à l'échec. Littéralement, je me conditionne à l'échec. Mais c'est comme pour tout, effectivement, chaque élément chez moi est ritualisé. Et c'est qu'on en prend conscience, on peut, entre guillemets, optimiser ce rituel. Et surtout voir effectivement qu'il nous fait défaut, que ça apporte du coup de défaut également au résultat final.
Donc s'amuser avec ça, comme tu as dit, mettre de la volatilité, un jour ne pas le faire, voir ce qui se passe, voir que finalement j'étais plus adaptable que je le pensais, et s'amuser avec ça. Mais oui, en effet, les rituels sont très importants pour désamorcer certaines prédictions dans le cerveau, le fait d'avoir besoin de structurer, de prévoir les choses. On sait très bien que le cerveau réagit vraiment comme ça.
James Clear en parle dans son livre Atomic Habit. Tout parle du déclencheur. Si le déclencheur est présent, automatiquement le reste va en découler. Et c'est pour ça qu'on fait des choses ritualisées sans s'en apercevoir, comme prendre son téléphone. Tu l'évoquais précédemment, effectivement les gens prennent leur téléphone, se retrouvent sur internet, sur Instagram, sur Facebook, sans en avoir conscience. Parce que le téléphone est plus fort que nous.
Ah oui, non, mais clairement, le désir est constant.
Qui ont fait en sorte qu'il soit plus fort que nous. Et moi de mon côté, j'ai carrément instauré une barrière sur mon téléphone pour m'empêcher de continuer l'action. C'est une application qui est géniale, qui s'appelle OneSec. Typiquement, là, si je vais sur la seule application que j'ai, c'est Twitter, si je vais dessus à l'écran, automatiquement, ça m'affichait, hop, une barrière. Il faut que je tourne mon téléphone 3 fois sur lui-même, toi. Allez, 1, 2, 3 pour ouvrir Twitter. C'est extrêmement chiant.
Après,
en plus, je dois me justifier. Pourquoi tu le prends? Parce que t'es au WC, parce que tu t'ennuies, parce que t'arrives pas à dormir.
Très bien.
Et c'est vrai, du coup, quand tu mets de la friction par rapport à une habitude, automatiquement, tu peux la désamorcer facilement. Et plus tu vas en retirer à l'inverse, plus ça va être simple. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais pour partir courir, le plus compliqué, c'est de mettre ses chaussures.
Non, clairement.
C'est pas être dehors. Dès qu'on fait un pas, on est parti. Mettre les chaussures, c'est compliqué.
C'est pour ça que quand je
dors avec les chaussures.
Ouais, c'est clair. Je les enlève plus. Je cours pieds nus. Mais ouais, moi, quand je faisais de la course à pied, je faisais des 10 km à la fin de mon lycée, là. On s'était vraiment chauffé un moment avec mon frère à faire des compètes. Je commençais toujours, je me posais pas de questions. Mais c'était comme pour les bains froids, ça. Quand j'étais à fond dans les bains froids, j'en faisais tous les jours. Surtout, je ne réfléchissais pas. Et Maurice Daubard me le disait très bien. Hein, il disait, tu réfléchis, t'es mort. Donc, tu ne réfléchis pas, tu y vas. Et la course à pied, c'était ça. Je mettais mes baskets, mais je pensais pas que j'allais courir. Je me disais pas, tu vas courir. Je partais marcher. Tout de suite, tu marches. Tu sors, tu commences le processus sans y penser. Et après, en fait, tu commences à courir, quoi. Mais d'abord, je sors marcher. Et David Goggins parle souvent de ça, de tromper l'esprit ou faire croire au mental qu'il a gagné. Quand t'as dit que tu devais faire 5 sets de 10 reps au bench et qu'à la troisième set, tu dis ouais, bon, je vais faire du fly, je vais faire autre chose, je vais faire un peu moins. Si tu commences à tweaker ton programme parce que t'as la flemme, quoi, grosso modo, et que tu veux pas serrer les dents, il dit, tu veux faire des séries de sprint ou quoi, et à la sixième série, tu dis, ah, j'arrête, je fais pas les 10, etc. Et ben, donne-lui la victoire au ton mental un moment. Dis, bon, ok, j'arrête. Tu commences à te rhabiller, tu commences à partir, etc. Et là, tu retournes. Et là, tu dis, non, finalement, je vais terminer le truc. Et parfois, c'est bon de faire ça. Ça marche. En tout cas, parfois, ça marche. De se dire, ok, j'arrête. Et puis, en fait, non, 5 minutes après, j'y reviens.
Je le fais pour les douches froides à mon niveau, effectivement. Sur la douche, je me dis, j'ai pas envie. Et en me disant ça, je mets le froid.
C'est vrai,
littéralement, en fait, tu vois, en fait, le corps est dissocié de l'esprit. Je dis, oh non, j'ai pas envie, je suis fatigué, etc. En même temps, hop, on tourne à coup sec au niveau du froid, on se tait et on y va.
Ouais, on se dédouble, ouais, clairement.
Merci Pierre.
Ouais, je t'en prie, mon pote. Merci à
C'était
toi.
cool.
Ouais.
C'était super. Merci pour tes partages, tes connaissances, ta sagesse. Littéralement ta sagesse.
Ouais, merci.
Pour conclure, est-ce que tu verrais d'autres personnes que tu connais intervenir sur le podcast?
Oh là là.
Qui tu pourrais me conseiller? Alors, dont tu as le contact, bien sûr, hein, tu me dis Barack Obama, etc. Oui, ça va être sympa. Mais.
Qui te dit que j'ai pas le contact de Barack?
C'est vrai. Question compliquée, je sais.
Non, finalement, j'ai envie de te proposer pas mal de gens. Mais ça dépend aussi dans quel. Peu importe le thème.
Peu importe le thème, moi je fais des connexions avec mon domaine derrière. Il y a toujours des connexions à faire. En fait,
Ouais.
tout est lié, donc.
Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'approche justement de la méditation, de la conscience de soi, etc. Alors, tu as mon ami Steve Gentis, qui sera au festival. J'étais en live avec lui hier, qui pourrait t'apporter. Lui, il est vraiment pratique de méditation, zazen, arts martiaux. Et dans le monde aussi, il a coaché des grandes stars d'Hollywood. Dans la jet set, etc. Vraiment les plus grands acteurs que tu puisses imaginer là, que tu as dans ta tête, il les a sans doute coachés, tu vois, dans les Avengers ou quoi, tu vois. Donc il a vraiment ce côté jet set. Il a mis le pied dans ce qu'on, pour nous, hein, qui semble le pire du pire, c'est-à-dire, t'imagines le monde du people, quoi. Et pourtant, il est toujours resté aligné, du genre, je reste maître zen, arts martiaux, etc. Donc c'est très fort, tu vois, comme parcours de vie. Il est allé voir dans les extrêmes. Voilà, Steve, je pense que ce serait une belle rencontre avec toi. T'as déjà eu Slim sur le podcast?
Non, non, je
Non?
l'ai contacté sans réponse.
Bah
Sans
Slim, je le
réponse.
relance. Ah bah ouais,
Ah bah
carrément.
vas-y, relance-le, ça me va.
Ouais. Slim, grand copain aussi de Steve, donc c'est la même clique. C'est Monsieur Mouvement. Et en plus, il revient d'un stage qu'il a fait avec Roy, le cousin de Ido.
Ok.
Je sais pas si tu vois, Roy, c'est une armoire à glace, il fait 2 mètres. C'est
Roy
Ido, mais il
Portal,
fait
du
2
coup,
mètres.
il s'appelle comment? Il
Comment?
s'appelle comment, du coup, juste Roy?
C'est Roy, je crois que soit il a le même nom que Ido. Non, attends, c'est quoi? C'est Roy Gold. C'est comme Goldie Roger, mais Gold, je pense que c'est un pseudo sur Instagram.
Attends, je vais regarder ça en même temps. Ido Portal, j'ai beaucoup de Ido. Ah oui, c'est Goldschmidt.
Ok, mais je crois que son prénom c'est Roy. Enfin bref, je sais plus trop.
Ah oui, effectivement, il est sacrément solide.
Il est d'un volume, en fait,
La
parce que
vache.
Slim, bon, toi, t'es super costaud aussi, mais Slim, déjà, il est massif. Alors que ça se voit pas trop, parce que Slim, il est tout en. C'est le léopard, tu vois, il est dans la souplesse, etc. Mais quand t'es à côté de Slim, tu vois la carrure, tu vois. Et en photo, Slim, à côté de Roy, il fait ça, quoi.
Non mais je viens de voir Roy,
Donc, tu.
effectivement, il est
Pouah!
monstrueux, il est monstrueux.
Incroyable. Et donc il fait des trucs avec son corps, tu vois, il se met en poirier sur un bras et il danse, tu vois. Il fait des
La
vagues.
vache.
Donc complètement ouf. Donc Slim, ce serait une super rencontre. Et puis c'est quelqu'un qui a une magnifique philosophie, beaucoup de cœur. Genre de personnes qui sont en public comme en privé. Il n'y a pas de différence. C'est très agréable. Voilà. Ça c'est
Non mais
déjà
je
pas
veux bien
mal.
effectivement une petite mise en relation
Voilà.
avec eux deux. Il est impressionnant, Roy. Je suis bluffé par ses mouvements et par le physique qu'il
Ah
a.
non mais laisse tomber, laisse tomber.
Et hop, je le suis.
Ouais.
Tac. Merci encore une fois et on se retrouve nous bientôt sur un autre podcast. Et du coup, le
Ah ouais.
podcast.
On en a des émissions tous les deux.
On a beaucoup d'émissions tous les deux, effectivement, ouais. Et
Parce que la
bon,
prochaine fois,
écoute.
c'est toi et la neuroproductivité chez moi.
Oui, c'est vrai. Il
Ouais.
faut qu'on puisse se trouver une date pour en parler ensemble, avec grand plaisir.
Ouais, super. Grand merci, mon ami, vraiment.
Merci à toi pour ton temps, pour tes informations, pour ta générosité, et à très vite.
Ouais, à très très vite.
Allez, à plus.
Vite. Oui.